Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme en français. Vous écoutez la radio SBS et nous sommes le samedi 20 septembre 2025. Nous allons passer une heure ensemble. Je suis très heureuse d'être à vos côtés. Je m'appelle Marianne Murat et comme tous les samedis, on va commencer avec la rétrospective du jour. Faire un bond de 78 ans dans l'histoire et on va remonter au 20 septembre 1947, date à laquelle le plan Marshall a été adopté. À la base, il avait été pensé comme une réponse coordonnée à la dévastation européenne après la Seconde Guerre mondiale, mais c'était bien plus qu'un apport financier. Le plan Marshall a contribué à transformer durablement le paysage économique et politique de l'Europe et il a laissé un héritage profond pour les relations internationales. C'est ce que François Vantôme va nous expliquer.
À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine. Infrastructures dévastées, industrie épuisée, monnaie instable et pauvreté omniprésente mettent en péril la stabilité politique et la sécurité internationale. Face à ce chaos, les États-Unis, convaincus que la prospérité européenne est essentielle à la paix et à leur propre sécurité, se mobilisent pour proposer un plan d'aide économique ambitieux. C'est dans ce contexte que le plan Marshall prend forme sous l'impulsion du secrétaire d'État George Marshall et de son entourage. Le 5 juin 1947, Marshall présente publiquement, lors d'un discours à l'université d'Harvard, l'idée d'un programme de reconstruction qui mobiliserait des ressources massives pour soutenir les pays européens dans leur redressement économique.
The truth of the matter is that Europe's requirements for the next 3 or 4 years of foreign food and other essential products, principally from America, are so much greater than her present ability to pay that she must have substantial additional help or face economic, social, and political deterioration of a very grave character. This is the business of the Europeans. The initiative, I think, must come from Europe. The role of this country should consist of friendly aid in the drafting of a European program and of later support of such a program, so far as it may be possible for us to do so. The program should be a joint one, agreed to by a number, if not all, European nations.
L'objectif est clair, accélérer la production, restaurer les infrastructures, stabiliser les monnaies et créer un cadre propice à la croissance durable, tout en favorisant la coopération politique et la réconciliation économique européenne. Le 20 septembre 1947, le Congrès américain adopte officiellement ce plan qui sera mis en œuvre pour une durée de 4 ans. Intitulé « Programme de reconstruction européenne », il offre à tous les pays d'Europe, y compris l'URSS et les autres pays communistes, l'assistance américaine à la reconstruction matérielle et au redressement financier pour une durée de 4 ans. Alors que l'antagonisme soviéto-américain qui aboutira rapidement à la guerre froide se développe, Moscou, suivi par les pays communistes d'Europe de l'Est, rejette l'offre. Le plan Marshall n'est accepté que par des pays d'Europe de l'Ouest. Autriche, Belgique, Danemark, Irlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et par la Turquie. Son démarrage au printemps 48 coïncide avec le blocus de Berlin, épreuve de force Est-Ouest qui dure un an, et les bénéficiaires du plan sont bientôt rejoints par la nouvelle République fédérale d'Allemagne après sa naissance en 1949. Le plan pose donc aussi les jalons de la guerre froide qui déchire le monde entre deux blocs rivaux, américains et soviétiques. Les résultats sont rapides et de nombreux bénéficiaires existent. un total de 13,35 milliards de dollars de l'époque, soit l'équivalent d'environ 160 milliards de dollars, est injecté dans l'économie des pays aidés à des conditions particulièrement avantageuses. 85% à titre gratuit et 15% en prêt à long terme. Deux organismes administrent le plan, l'Economic Cooperation Administration, ECA, et l'Organisation Européenne de Coopération Économique, OECE. Les Américains avaient en effet fixé pour condition une coopération économique et un programme d'auto-assistance entre les pays bénéficiaires. Les résultats du plan Marshall ont été particulièrement rapides et n'ont pas profité qu'à l'Europe. Les économistes estiment que l'industrie américaine a largement bénéficié de l'expansion accélérée des marchés du vieux continent, où le dollar a rapidement supplanté la livre sterling comme principale monnaie commerciale. Le plan Marshall représente un tournant majeur dans l'histoire économique et politique du XXe siècle. En répondant à l'urgence humaine de l'époque, tout en posant les jalons d'un ordre économique européen moderne et coopératif, il a démontré que l'assistance étrangère pouvait être un levier puissant pour la stabilité, la prospérité et la paix à long terme. En 1953, le prix Nobel de la paix a été attribué à George C. Marshall pour son rôle déterminant dans le rétablissement économique de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale et dans la promotion de la coopération internationale. Ce prix Nobel de la paix, décerné à Marshall, a aussi symbolisé le passage d'une logique de conflit à une logique de coopération régionale et transatlantique, posant les bases d'un ordre international fondé sur l'aide économique coordonnée et les institutions de coopération. Aujourd'hui, ce choix rappelle l'importance de l'action diplomatique économique pour prévenir les conflits et bâtir des ponts entre les nations. L'expression « plan Marshall » employée par les leaders européens au sujet de la reconstruction de l'Ukraine est passée dans le langage courant pour désigner un programme d'aide extérieure massif destiné à relever une région, un pays ou un secteur dévasté par un conflit, une catastrophe, une crise. Depuis les années 70, le terme « plan Marshall » a été employé à de multiples reprises pour désigner des programmes d'aide aux pays pauvres, notamment africains, ou pour des plans de relance économique comme l'injection massive d'aide aux États-Unis après le coup d'arrêt causé par la pandémie de COVID-19 en 2020.
La vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, et même après, je t'aimerai.
C'était Oshi sur les ondes de Radio SBS avec sa chanson Et même après, je t'aimerai. On marque une très courte pause, messieurs, dames. On se retrouve dans un instant avec un nouvel épisode de notre podcast L'Histoire cachée. Grégory Pless et Romain Fati vont vous raconter une affaire qui a fait frémir toute l'Australie. C'était une série de meurtres et d'attentats à la bombe qui n'auront été résolus qu'au bout de 30 ans.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, avec, comme d'habitude, Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory. Bonjour auditeur.
Avec vous, comme d'habitude, notre historien quasiment maison, donc vous êtes en garde partagée avec l'Australian National University. On va s'intéresser à une affaire qui a véritablement fait frémir toute l'Australie dans les années 80. Une affaire qu'on appelle en anglais les Family Court Attacks. Et en gros, c'est une série d'attentats qui ont frappé donc des tribunaux, aux affaires familiales, mais qui ont aussi se sont traduits également par des assassinats ciblés de certains juges. Et cette affaire, le plus fou, c'est qu'elle n'a été résolue que plus de 30 ans après que les faits aient été commis. Donc Romain, on parle, comme je le disais, d'une série d'attaques personnelles, mais aussi d'attentats à la bombe, qui au total ont fait 4 morts. 2 personnes ont été tuées par arme à feu, 2 autres dans des explosions. Et les 2 premiers ont été tués par balle en sortant de chez eux. On peut parler d'assassinat. Le premier d'entre eux est un homme qui s'appelle Stephen Blanchard. Il est abattu en février puis en juin 80. Le premier est un homme qui s'appelle Steven Blanchard. Il est abattu en février et puis en juin de cette même année 80, c'est un juge aux affaires familiales, David Hoppas, qui est également tué. À ce stade, Romain, on ne sait pas du tout ce qui relie ces deux meurtres, ni même s'ils le sont. Et puis ce qui rend cette affaire exceptionnelle, c'est que c'est la première fois dans l'histoire australienne qu'un juge est tué dans l'exercice de ses fonctions.
Oui, alors, on ne sait pas ce qui relie ces deux meurtres, oui et non. Je ne vais pas rejeter la faute sur la police de Nouvelle-Galles du Sud de l'époque, mais enfin, les auditeurs, comment dirons-je, seront juges justement de si elle a bien travaillé ou non. On va redécoudre et reprendre les choses depuis le début. Je dois vous avouer que vous m'avez fait travailler beaucoup plus que d'habitude sur cet épisode, parce que y a l'aspect droit et technique, mais il y a aussi l'aspect fait divers qui, en fait, on va en parler, représente pas mal d'autres évolutions à l'échelle nationale qui sont importantes. Alors, on remonte dans le temps. Deux jeunes gens se rencontrent. Andrea Blanchard, elle a 18 ans à l'époque. Elle rencontre donc Leonard Warwick et puis se mettent ensemble. Ça se passe pas très bien depuis le début. Elle racontera par la suite qu'en fait il est assez violent. Mais elle se dit que peut-être ça passera, peut-être qu'il va s'adoucir. Ils se marient et ils ont un enfant. Et en fait, Léonard ne s'adoucit pas, c'est le contraire. Il continue à perpétrer de la violence domestique sur son épouse. On parle de coups et blessures, hein, c'est très violent. Il la traîne par les cheveux dans le couloir, enfin, des choses absolument horribles. Sa belle-sœur le qualifie déjà de monstre. Et donc, Andrea se dit, il m'enferme dans la maison. Elle arrive à se sauver. C'est-à-dire qu'il a mis des verrous sur les portes. Il l'enferme très littéralement chez elle. Et puis, elle se dit, en fait, je vais finir morte. Le seul moyen que j'ai, c'est de partir, de m'évader de chez moi. Hein, je suis mariée avec cet homme. On a une maison. C'est de m'évader et de partir prendre refuge chez mon papa et où vit également son frère. Donc, elle part, ne revient pas et puis se pose la question de la garde de leur petit enfant, Trudy. Et commence les rendez-vous au tribunal, après rendez-vous au tribunal, après rendez-vous au tribunal pendant des années et des années. Bon, ça, on va en parler. Ce qui se passe, c'est qu'en 80, alors que effectivement, hein, ils se sont séparés, Léonard menace sa femme parce qu'il veut avoir accès plus souvent à sa fille en lui disant, tu sais que je pourrais éliminer ton père. Et elle lui dit, bah, ce serait bête parce que la police s'en chargerait. Et il lui répond, bah, tu sais, c'est pas grave, tu seras la prochaine. Bon, bref, quelques semaines après, on retrouve le frère d'Andrea, donc Steven, le premier meurtre dont vous avez parlé. On le retrouve avec une balle dans la tête, dans l'eau, lesté de briques, avec un corps qui a déjà été bien attaqué par les requins, et une découverte vraiment par hasard, c'est un peu macabre, hein, pour ceux qui nous écoutent qui sont à Sydney, ça s'est passé dans le parc national Ku-ring-gai, hein. Et donc, effectivement, la police essaie d'enquêter, mais pas de preuves, n'arrive pas à faire avancer, il n'y a pas les techniques de notre époque. Simplement, Andrea, évidemment, a ses doute sur son mari, il l'a menacé de mort, ainsi que son père. En parallèle, quelques mois plus tard, effectivement, vous avez l'assassinat du juge aux affaires familiales, David Hoppas. Et là, c'est assez terrible, hein. Monsieur Hoppas est en train de dîner avec sa famille, avec ses enfants. Il entend sonner à la porte, il ouvre la porte, et il se fait tirer dessus à faible distance, dans l'estomac, en fait. Et il meurt de ses blessures assez rapidement. Alors là, effectivement, ça fait les unes nationales, à la fois journaux, radio, télévision, parce que c'est la première fois qu'un juge est abattu en fonction. Là, il ne s'agit pas d'un fait où ça s'est mal passé, où il y a une bagarre. Non, on sonne à la porte, on l'abat. Bon, c'est très clair. Donc, la police est sur l'affaire. Et effectivement, rien ne relie ces deux meurtres a priori, On parle d'un jeune homme surfeur qui se retrouve lesté avec une balle dans la tête. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Ça pourrait être une affaire de drogue, on ne sait pas. Et de l'autre côté, un juge aux affaires familiales. Donc là, c'est un peu plus simple, entre guillemets, d'enquêter, bien que ce soit plus compliqué paradoxalement, parce que la police se jette sur les dossiers du juge, épluche les profils des 30 personnes qu'il avait vues dans cette journée même, et les plusieurs centaines d'affaires qu'il traite. Donc c'est un travail de fourmi absolument monumental. Et dans le cadre, effectivement, de cette enquête, comment il s'appelle? Léonard Warwick est interrogé. Il dit non, moi j'ai rien à voir là-dedans. Alors qu'il n'a pas d'alibi, ils le mettent en garde à vue. C'est assez particulier comme histoire parce qu'en fait, ils vont fouiller chez lui, ils ne trouvent rien. Ils vont à son travail et ils trouvent des découpes de presse qui parlent du juge, effectivement. Alors il continue à chercher. En fait, chez lui, il retrouve du papier toilette qui appartient à son lieu de travail, qui se trouve être les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud. Et donc la police leur dit, lui dit, on va vous détenir parce que vous avez volé du papier toilette. Il leur dit, bah, écoutez, très bien. Et puis, en fait, il ne parle pas. Donc, dès le début, c'est quand même le suspect principal, et il est lié quand même aux deux meurtres, c'est-à-dire qu'il est le beau-frère de la personne retrouvée morte avec une balle dans la tête dans l'eau. Et il a été traité, un des dossiers traités par le juge, sachant que ce juge-là lui avait donné déjà plusieurs injonctions de rendre sa fille à l'heure telle qu'il était convenu dans le cadre de la garde parentale, ce qu'il ne faisait pas régulièrement. Donc la police sait déjà qu'en fait c'est un profil un peu qu'il va falloir surveiller.
Sweden, we believe in just the right amount. Embracing balance, minimalism, and simplicity. Something that Volvo believe in too. And when it comes to choosing your next car, we believe in just the right amount of choice. Between petrol, plug-in hybrid, and fully electric, there's a Volvo for everyone. So visit your local Volvo retailer to learn which one is right for you. Volvo.
Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world! Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.
Et pourtant, enfin, vous le dites, enfin, il y a un lien finalement assez simple à établir entre ces deux cas. Un juge qui a traité le dossier de l'un des suspects. Il se trouve que son beau-frère est mort récemment. On imagine en plus que dans le dossier du juge, on doit savoir les histoires de violences conjugales, dossiers sur la garde de l'enfant qui, j'imagine, ne lui a pas été favorable. Et pourtant, à ce stade, donc vous le dites, suspect, mais pas plus que ça.
Ben oui, parce qu'en fait, ça paraît. Pardon, c'est important de revenir là-dessus. Ça paraît un peu évident parce que nous, voilà, on connaît la fin de l'histoire. En revanche, à l'époque, vous ne pouvez pas vous présenter devant un tribunal en voulant juger quelqu'un pour meurtre si vous n'avez pas des preuves très, très, très solides.
Au-delà de
Sinon,
tout doute raisonnable, oui, comme on dit.
voilà. Sinon, vous vous retrouvez avec un meurtrier dans la nature. Donc la police sait qu'elle doit avancer doucement pour trouver des preuves. Or, des preuves, il n'y en a pas. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace ADN, il n'y a pas d'arme qui est retrouvée, il n'y a rien de vraiment tangible qui pourrait permettre à la police d'arrêter Léonard de façon plus longue, de le mettre en garde à vue puis incarcéré, pour attendre un jugement, parce qu'en fait, il ne trouve rien.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cette histoire d'attaque visant le tribunal aux affaires familiales en Nouvelle-Galles du Sud. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette histoire. On va s'intéresser aux attentats à la bombe qui vont être commis quelques années plus tard. On expliquera également que ces attaques interviennent alors que le droit de la famille en Australie a été profondément modifié quelques années seulement avant. À très bientôt.
Thank you.
si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon... Je suis toute la femme, tu vois, toute la femme de ta vie.
Connu la chanson « Toutes les femmes de ta vie » à l'origine chantée par les L5, et bien là, c'était la version de Julien Doré, bien sûr. Allez, on va passer à notre podcast « Watson SBS on demand ». Retrouvez les sorties francophones du mois de septembre 2025 sur la plateforme de streaming, le tout en accès gratuit. What's on SBS on demand ? Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pourquoi nous vous proposons notre sélection de contenus francophones. Watson SBS on demand, c'est un rendez-vous mensuel avec des synopsis, des interviews, des bandes-annonces de films, séries et même documentaires pour trouver quoi regarder sur SBS On Demand. Alors, que retrouver au mois de septembre ? C'est parti ! On commence par l'une des plus célèbres séries télévisées et probablement l'une des plus attendues sur la plateforme. La série 10% débarque sur SBS On Demand. Les 4 saisons sont désormais disponibles en intégralité et gratuitement. 10%, connu aussi sous son nom en anglais Call My Agent, c'est l'histoire de 4 agents de comédiens qui se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients, le tout en gérant aussi leur vie personnelle haute en couleur. Alors ça pourrait s'arrêter là, mais non, il y a l'arrivée de Camille, la fille illégitime de l'un des agents. Elle débarque à Paris, elle cherche du travail. Et elle est alors plongée dans le quotidien mouvementé de l'agence. C'est par son regard naïf qu'on découvre les dessous de la célébrité. Attention, série addictive. Bande annonce.
Réponds-moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin ?
Oui.
Tu peux commencer tout de suite ?
Il faut que chaque agent ait en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats.
On en est où de Cécile de France pour les Tarantino ?
Noémie, passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît.
Voilà, tout de suite, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération.
Qui est parti, concrètement ?
Berléand.
Qui a frappé l'autre ?
Berléand.
Julie Gayet et Joey Starr ont disparu.
Non mais ils veulent pas juste faire leur métier ?
Voilà pour la bande-annonce de la saison 1. Au total, 4 saisons, on le disait, 24 épisodes avec Camille Cotin, Laure Calamy, Thibaut de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovert notamment. Le tout brillamment réalisé par Fanny Herrero. Et bien sûr, il y a aussi pléthore de stars, de comédiens connus en France et à l'étranger. Alors, populaire en France, 10% a également rencontré le succès à l'international puisque de nombreux remakes ont ainsi vu le jour en Italie, au Canada, en Inde, en Corée du Sud ou encore au Royaume-Uni. Et suite au succès de la série, eh bien un film va sortir sur Netflix, ça devrait normalement arriver en 2026, soit 6 ans après l'arrêt de la série. Et excellente nouvelle, l'intégralité du casting de la série originale sera de retour pour le long métrage. Alors avis aux impatients, en attendant le film sur Netflix, eh bien foncez sur SBS On Demand pour voir ou revoir les 4 saisons de la série française 10%. La suite de notre sélection mensuelle, c'est un court-métrage belge et un documentaire australien. Alors Samia, c'est le nom du court-métrage belge de 20 minutes, il est réalisé par Selma Alaoui et Bruno Trac. C'est l'histoire de Samia, justement, qui rencontre Farhan et qui le suit chez lui puisqu'il organise un concert de musique marocaine. Cette fête joyeuse lui fait oublier un instant l'enterrement lointain, ce même jour, de son papa qu'elle n'a pas connu. Et alors qu'elle sort de l'immeuble, elle se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille, ça arrive. Elle remonte, mais elle découvre que personne n'a vécu dans cet appartement depuis des décennies.
Madame, bonjour. Donc elle est entrée comme une folle dans l'immeuble, elle a commencé à crier, elle a tenté de défoncer la porte du dessus.
Je ne veux pas défoncer la porte, le voisin de ce monsieur m'a invité à une fête.
Personne en haut, madame.
J'ai passé un moment en haut avec tout un tas de gens et des musiciens qui doivent encore y être.
Pourquoi vous êtes revenue, madame ?
J'ai juste oublié mon portefeuille et il n'y a personne qui ouvre la porte.
Et vous n'avez pas essayé d'appeler quelqu'un à l'intérieur ?
Vous suivez comme ça des gens que vous ne connaissez pas chez eux?
J'étais là tout à l'heure, il y avait des musiciens, des gens qui dansaient, je vous jure.
Qu'est-ce que c'était? Sida, on est là, Artania. On a dit que les gens qui sont là, on va voir le mal. Tu es madame?
Sam.
C'est pas vrai, non, ça, Sam.
Samia.
Samia.
Voilà pour le court-métrage Samia. On passe au documentaire australien dont on vous parlait. Ce n'est pas dans nos habitudes de teaser les programmes non francophones, mais SBS publie ce mois-ci un reportage sur le scandale Robodebt. C'est du contenu australien donc, mais on voulait vous en parler car il y a eu tellement de victimes ici en Australie, 500 000 personnes, un demi-million de victimes. Alors, Robodebt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, souvenez-vous, c'était ce système informatique gouvernemental défectueux qui a coûté beaucoup, beaucoup d'argent à, on le disait, un demi-million d'Australiens. Ils ont dû rembourser des prestations sociales de manière totalement indue. Et le reportage diffusé sur SBS On Demand, The People vs Robodebt, c'est le titre, retrace la longue bataille judiciaire avant que le gouvernement de Scott Morrison, le gouvernement libéral de Scott Morrison, admette en 2020 la responsabilité de l'administration, présente ses excuses et indemnise les victimes.
If you wanted to create a scheme that was as harmful as possible, you'd probably come up with something like Robodebt.
The government come up with a new computer system. There won't be a human in sight.
Centrelink became Australia's largest criminal organisation.
To take on the government is a really scary thing.
There's no way you owe this debt.
How could it go on so long? How could they not know?
We all just said, yes, Minister, we'll do that. Yes, Minister, we'll do that.
Was I the one that pushed them over the edge? I wasn't going to give in. I was not.
This could be the case that was going to change things.
I had nothing to lose by speaking out.
It was David and Goliath.
They shouldn't be allowed to get away with it.
The People vs. Robodebt. Streaming 24th of September on SBS On Demand.
Voilà, The People vs. Robodebt. Ce documentaire australien sera disponible sur la plateforme le 24 septembre 2025. Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection des sorties séries et documentaires du mois de septembre sur SBS On Demand. Mais bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois dernier. L'épisode en août sur SBS On Demand est disponible sur notre site internet ainsi que sur toutes les plateformes. Et les films et séries dont on y parle, tout est accessible gratuitement, on le répète, sur la plateforme SBS On Demand. Et ce, pendant encore plusieurs mois. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On Demand. Bon visionnage et à très bientôt.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Vous avez sûrement reconnu sa voix reconnaissable parmi toutes, Zao de Sagazan avec sa chanson « Les Dormantes ». On a eu la chance de rencontrer un photographe documentaire installé en Australie, il s'appelle Frank Gazzola, et il nous raconte son parcours de l'expatriation à sa passion pour les océans. Et à travers ses expéditions et ses images, il sensibilise à la beauté, mais aussi à la fragilité des environnements marins. Rencontre.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes en ligne avec Frank Gazzola. Bonjour Frank.
Bonjour.
Vous êtes photographe, vous faites du documentaire. Vous êtes français, mais vous vivez à Byron Bay.
C'est ça, exactement.
Racontez-nous un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé là?
J'ai toujours vécu à l'étranger, en fait, depuis que j'ai fini mes études. Et je travaillais dans le corporate avant de devenir photographe. Et donc, Ma carrière, en fait, c'était la carrière typique d'un expat qui passe 2, 3 ans dans un pays et puis qui ensuite suit une promotion ou qui se fait chasser et puis qui change de pays. Et j'ai longtemps vécu dans des pays qui étaient très sympas, mais qui étaient au demeurant pas les pays où j'aurais aimé m'installer. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit, bon bah ça y est, mon CV est suffisamment robuste, épais, pour pouvoir choisir là où moi je veux vivre et le job suivra, en gros. Et c'est comme
C'est
ça que je
un
suis arrivé en
luxe.
Australie
C'est
en...
merveilleux de
Oui,
pouvoir
bah
se dire ça.
exactement. C'est exactement ça. Ça a été dur pour ma famille de me voir partir, mais c'est exactement ce que je leur ai dit. C'est que je leur ai dit, vous m'avez donné les moyens de pouvoir choisir ma vie, et c'est exactement ce que je fais. Donc, c'était, j'essaie de leur faire comprendre qu'ils devaient être heureux pour moi, même si la distance leur paraissait insurmontable. Enfin, c'était un obstacle forcément quand on a un de ses enfants qui s'en va loin comme ça. Mais
Tous nos
voilà,
parents vivent la
ça a
même
été
chose.
exactement, exactement. Et j'imagine que nous, on y sera peut-être confrontés un jour, donc je comprends très bien. Mais c'est sûr que c'était vraiment là un choix de vie. J'ai grandi en regardant des films de glisse. J'ai toujours été dans la glisse, la planche à voile au départ, le surf et tout ça. Donc grandi en voyant des films sur l'Australie, le côté sauvage, les vagues, le côté nature, les grands espaces. Et donc c'était un endroit où j'avais pas forcément envie de venir pour 3 semaines, 1 mois comme la plupart des gens, ou qui repartent frustrés parce ils ont à peine bougé sur la carte. Je me suis dit, c'est un pays dans lequel j'aimerais y vivre pour pouvoir y passer plusieurs années et puis vraiment l'explorer. Je vais trouver le job qui va avec. Et donc j'avais été mis en contact avec des chasseurs de tête qui m'ont dit, c'est super, t'as un super CV, mais tant que tu viendras pas ici, tu seras qu'un CV. Mais quand tu as des billets, appelle-nous. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des billets d'avion, puis je leur ai dit, bah voilà, je viens de telle date à telle date. Et donc là, ils m'ont booké. C'était des vacances, mais en fait, j'ai été en entretien tous les jours quasiment, à Brisbane, à Melbourne, à Sydney. Et puis quelques mois plus tard, j'étais en Australie avec mon visa et avec ma femme. On commençait une aventure qui a commencé en 2011.
Ah,
Voilà.
j'allais vous demander, donc à l'année 2011 déjà.
Voilà, l'année 2011 et en 2015, j'ai changé de carrière pour devenir photographe. Peut-être qu'on y reviendra, mais enfin voilà. Donc là, ça fait quoi, une quinzaine d'années qu'on est installé ici. Au départ à Sydney, à Bondi, comme beaucoup d'expats qui arrivent de si loin, et depuis quelques années à Byron Bay.
Et alors justement, oui, on y revient, votre carrière de photographe, donc on le disait, vous faites des documentaires, vous photographiez les sous-marins, mais pas que, du coup on va parler des deux, et malgré le fait que vous viviez en Australie, votre carrière de photographe vous emmène quand même toujours aujourd'hui aux quatre coins du monde.
Oui, ma carrière de photographe, elle m'emmène souvent assez loin de ma base en Australie, pour plusieurs raisons, mais je suis ravi quand je peux travailler ici, parce que c'est un endroit où j'adore photographier. Donc voilà. Mais oui, j'ai pris un virage. J'avais 35 ans. Je suis tombé un peu dans la photo. Enfin, je me suis mis à faire de la photo en arrivant en Australie. Juste avant d'arriver, j'avais fêté mes 30 ans et on m'avait offert un appareil photo, un réflexe numérique, un des premiers réflexes numériques un peu sympa qui était sorti. Et ça m'a redonné le goût à la photo, chose que j'avais fait un tout petit peu quand j'étais au lycée. Mais c'était l'époque du film, ça coûtait cher de faire des photos, ça coûtait cher de les tirer et tout ça. Bon, bref, donc c'est quelque chose que j'ai pas suivi. Et puis bah mes 30 ans sont arrivés, j'ai eu cet appareil photo. Et puis bah en arrivant en Australie, tout était nouveau, tout était frais. Puis il y avait tous ces sujets que j'affectionnais particulièrement, comme l'océan, les paysages, le surf. Toutes ces choses-là, et puis je vivais comme dans une grande ville à Sydney, donc il y a aussi le côté ville qui est assez fascinant. Il y a quand même des points d'intérêt assez dingues à Sydney. Donc tout ça mis bout à bout, bah, j'ai commencé à refaire de la photo, à reprendre goût à la photo. C'était le point de départ en fait d'une passion qui m'a amené à faire une rencontre. Et cette rencontre, un jour, m'a dit, bah tiens, est-ce que tu veux pas travailler avec moi, en tout cas collaborer dans ma galerie? Et c'était une galerie de photos d'art autour de l'océan. Donc c'était autour du surf, des plages de Sydney. Voilà, c'était vraiment la thématique principale, c'était les photos d'océan, des belles photos que les gens veulent mettre au mur, parce que ça se fait beaucoup ici, ils veulent mettre au mur dans leur salon, une grande reproduction d'un très beau lever de soleil à Bondi Beach ou d'une très belle vague pendant une tempête, enfin voilà. Et donc j'ai commencé à collaborer pour cette galerie, et puis bah, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, vraiment de la photo semi-professionnelle.
ou d'un seul
Est-ce
coup,
que...
enfin pas d'un seul coup, il s'est mis un... il y a eu un petit peu de temps avant que les gens commencent à acheter mes images parce qu'elles étaient quand même assez mauvaises au départ. Et puis, mais ça m'a ouvert des portes. Et puis, puis un jour, quelqu'un veut faire un mariage. Alors je shoote un mariage. Je fais ça le week-end en plus de mon travail. Voilà. Et c'est comme ça que ça, en 2 ou 3 ans, j'ai grandi en fait de photographe qui débutait à photographe amateur à photographe semi-pro. Et un jour, j'ai sauté le pas en 2015 et je suis parti.
Ok, est-ce que tout tient à une rencontre et à des chances dans la vie? Je veux dire, c'est pas du tout pour remettre en question un certain talent, mais j'imagine que dans ce secteur, la concurrence doit être énorme.
C'est marrant que vous parliez de ça parce que quand je fais des conférences, j'en parle en fait et j'explique que le talent pour moi c'est quelque chose d'un peu presque surfait et que je crois beaucoup plus en fait au travail, à la persistance, à la résilience et aussi à ces rencontres. Mais en fait ces rencontres, j'aurais très bien pu les faire et jamais donné suite, jamais pris la balle au bon.
Ouais,
Et
transformer une
moi
rencontre en une
j'ai
opportunité.
Exactement. Je me suis dit bah ouais pourquoi pas. Et je sais qu'au début il y a des gens qui se sont plaints sur les réseaux sociaux ou dans les newsletters à travers les newsletters en disant ouais c'est qui ce nouveau il est mauvais. Et j'aurais pu très bien me dire oh là là bon j'arrête c'est pas fait pour moi. Et en fait quand je me faisais piquer comme ça au vif parce que j'avais un manque de talent un manque d'expérience bah ça me donnait plus envie de travailler et de compenser mes lacunes plutôt que de me laisser abattre. Voilà, je prenais ça plus comme un challenge. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose qui tient, je pense, à une façon de voir les choses et une personnalité. Et c'est comme ça que j'ai toujours avancé en fait dans ma carrière là depuis que je suis photographe. C'est que je suis arrivé tard, sans être formé, donc complètement autodidacte, dans un marché saturé, et se faire une place objectivement dans un contexte qui est celui-là, c'est compliqué.
Est-ce que vous faites encore aujourd'hui de la photo d'art? Enfin non, je devrais reformuler parce que toute photo est un art. Est-ce que vous faites encore aujourd'hui de la photo esthétique ou maintenant vous ne faites uniquement que de la photo documentaire dans le but de raconter des choses, montrer des évolutions?
J'essaye de marier les deux parce que c'est quelque chose que j'aime faire malgré tout, rendre les choses belles et capturer des choses que je vois, que je trouve captivantes, fascinantes et j'ai envie de le faire, de le partager aux autres. Mais souvent, ça rentre dans le cadre de projets, d'histoires à raconter. Et ce qui fait qu'un documentaire peut être puissant, c'est que ça allie le storytelling, donc raconter une histoire, à la composition et à l'esthétisme en général. Donc j'essaie de marier les deux, ce qui est pas toujours les trois plutôt, et c'est pas toujours évident, mais j'essaie de le faire. Alors après, oui, c'est sûr que je le fais moins, pour être honnête avec vous, de prendre mon appareil photo et de partir avant le lever du soleil et d'aller faire les photos comme je faisais quand j'étais à Sydney, que j'étais plein de motivation, de stamina et pour aller prendre des levées de soleil spectaculaires. Juste pour moi, je le fais assez peu maintenant, sauf quand je suis en vacances ou quoi. Aussi parce que je pense que comme n'importe quoi, dès que ça devient professionnel, on n'a plus tout à fait le même rapport à l'art qu'on pratique. Donc, quand je faisais ça comme quelque chose à côté, j'étais hyper motivé, j'avais tout le temps envie de photographier. Maintenant, je vois le travail que ça va être derrière la photo que je vais faire. Après, il y a le dérush, après, il y a l'editing, après, il y a le poster sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, ou je sais pas. Et parfois, je suis tellement occupé à juste faire mon travail que de m'en rajouter comme ça, c'est pas toujours quelque chose que je fais naturellement. Il y a une autre chose aussi pour moi, c'est que c'est quand même une expression artistique, c'est quand même un travail qui demande beaucoup d'énergie quand on est en tournage, en mission. Et souvent, entre les missions, j'ai besoin de prendre mon souffle. J'ai envie d'avoir envie de continuer à faire de la photo, j'ai envie d'avoir envie de me dépasser le jour où je fais une mission pour quelqu'un, pour un client ou pour raconter une histoire. Donc quand j'ai des temps de pause, j'en profite aussi pour respirer. C'est un peu comme une respiration. Voilà. Donc quand maintenant quand je suis plus on, je suis off, en tout cas sur le côté photographique.
Et donc vous parliez de vos clients et notamment certaines photos professionnelles que vous prenez, c'est les fonds marins. Vous faites les fonds marins de plusieurs endroits du monde, pas que les fonds australiens. Et parlez-nous un petit peu, justement, ça nous intéressait, comment c'est là-dessous?
Ce que je pourrais répondre à ça, c'est ça restera très très parcellaire. Et pour plusieurs raisons, c'est que un, moi, je connais
assez peu finalement, même si j'y passe beaucoup de temps, et aussi parce qu'on connaît assez peu sur les fonds marins. Il y a cette phrase de Sylvia Earle, cette exploratrice, qui dit qu'on connaît beaucoup mieux la surface de Mars qu'on connaît nos océans. Parce que Mars, on peut observer tout le temps, il y a toujours un télescope qui peut être pointé sur Mars. On n'a pas cette capacité-là pour les fonds marins. Donc on en connaît assez peu, et c'est un peu la dernière frontière inexplorée sur la Terre, ce sont les fonds marins. Et c'est pour ça que c'est aussi passionnant et fascinant à faire.
Comment vous en êtes venu à photographier les fonds marins?
Ben, j'étais toujours passionné d'océan, comme je vous le disais, le surf, la planche à voile, tout ça, c'est un environnement qui me passionnait beaucoup. Je me suis mis à faire des photos aussi dans l'eau, justement pour faire des photos notamment de sports de glisse, etc. Et puis, un jour, je collaborais pour cette galerie à Sydney. Le propriétaire de cette galerie me dit, je déménage, je pars à Newcastle, je vais fermer la galerie. Et là, c'était un espèce de coup de massue. Je me disais, oh, c'est pas possible. Ça faisait 2 ans que je collaborais avec lui, et puis mes images commençaient à se vendre, et puis je commençais à avoir vraiment un but pour faire des images. Mes images commençaient à être un peu meilleures. Je commençais à avoir un peu plus d'expérience, et donc ça m'a mis un coup de massue. Je me disais, oh, mais si ça s'arrête. Bon, bref, j'ai racheté la galerie. Et je faisais ça en plus de mon travail de cadre dans une grosse boîte. Et j'ai racheté la galerie et j'ai dû refaire le site internet. Et pour refaire le site internet, on m'avait mis en rapport avec en relation avec un Français qui était installé à Sydney et qui faisait des sites web. Et il me demande, le jour où on se rencontre, c'est quoi ton rêve de photographe? Et j'y avais jamais vraiment pensé, mais je lui ai dit spontanément, écoute, moi, quand j'ai grandi en regardant Jacques Cousteau. Tous les dimanches, je regardais Cousteau et puis je regardais Thalassa le vendredi soir. Donc voilà, les aventures de Cousteau, aventures au long cours, où il y a un aspect découverte, il y a tous ces aspects-là de travail d'équipe et tout ça, c'est quelque chose qui me parle. Et il me dit, c'est incroyable que tu me dises ça, je connais ce couple de Français qui s'appelle Emmanuel et Guilain Bardou. C'est des explorateurs sous-marins, mais c'est aussi des explorateurs polaires. Donc ils explorent non seulement les fonds marins, mais ils explorent aussi sous les glaces. Et ils sont en ce moment même au nord du Groenland, en expédition, sur leur bateau avec leur équipe, en train de faire de l'exploration sous-marine polaire. Et il me dit, si tu veux, je peux te mettre en relation avec eux, je peux faire un email d'intro. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il fait cet email d'intro. Et moi, bah, j'ai envoyé un email, 2 emails, 5 emails. Et un jour, j'ai eu une réponse de leur part, me disant, on a déjà un photographe, mais on aurait besoin d'un deuxième photographe pendant une période donnée, pendant l'hivernage du bateau, qui sera pris dans les glaces, sur la côte ouest du Groenland. Et on a fait un Skype. J'ai eu le job. J'avais jamais plongé, vraiment. J'avais eu fait mon open water, donc c'est le niveau vraiment zéro de la plongée. Et bah là, j'avais 6 mois, et pendant 6 mois, je suis allé faire de la plongée tous les week-ends. Je suis allé au club de plongée à côté de chez moi. Je leur ai dit, voilà, j'ai ce job incroyable. Je vais partir avec ces explorateurs sous-marins au nord, à l'ouest du Groenland. Est-ce que vous pouvez me former? Et ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit, il faudrait que tu fasses ça, 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 ça. Et donc là, j'ai mangé, mangé, mangé de la plongée pendant 6 mois. J'ai acheté un caisson et puis je m'y suis mis comme ça. Et je suis parti au Groenland pendant 3 mois avec eux, pendant que le bateau était en hivernage, donc pris dans les glaces, pris dans la banquise pendant toute la durée d'hiver. Et je les ai rejoints à ce moment-là et j'ai fait de la plongée sous la banquise avec eux. Et j'ai fait mes premières images, vraiment mes premières images sous-marines, je les ai faites là-bas avec eux. Donc j'ai commencé un peu par le plus dur.
Oh,
Et
t'es
puis,
violent pour commencer, oui.
ouais, c'était violent pour commencer. Et j'ai commencé en fait avec eux comme ça. Et puis, bah, ça m'a mis le pied à l'étrier là-dessus, sur une nouvelle discipline que je connaissais assez peu. Et j'ai continué à me former, et puis 18 mois, même pas 12 mois plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire, est-ce que tu veux devenir notre photographe officiel? Et on part pour 3 ans autour du monde, de l'Arctique à l'Antarctique, en passant par le Pacifique, et j'allais devenir leur photographe officiel. Donc là, on partait pour des missions longues, et là, la plongée, j'allais en faire beaucoup, et de la plongée, et des photos sous-marines, j'allais en faire énormément. Et donc je me suis un peu de facto spécialisé comme ça en suivant cette expédition. Parce que bah, c'était tout le cœur de métier de cette expédition, c'était le travail de découverte des fonds marins pour des scientifiques.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Mon amour,
Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange, mon amour.
C'était la chanson « Mon amour » chantée par Slimane pour clore cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi, messieurs, dames. C'est la fin déjà de cette émission. Nous venons de passer une heure ensemble. Merci pour votre fidélité. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un très beau samedi après-midi. Au revoir, messieurs, dames. À demain.
Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.